vous avez remarqué dans les paroles du cantique qu'Ardeur reprise au rappel de l'amour de Jésus, il a été question d'une flamme qui brûle dans le cœur. C'est pourquoi le Seigneur me met à cœur quelques passages où il est question de ce que l'amour de Jésus a laissé dans les cœurs, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Et j'aime annoncer que chacun ici peut dire avec l'apôtre, selon le passage que vous savez en Galates 2:20, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et j'aime annoncer que tous ensemble, nous pouvons dire, selon Éphésiens 5, verset 2, Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. En face de l'assemblée, des assemblées représentées ici, ce passage vers les yeux d'Éphésiens 5, Christ a aimé l'assemblée, s'est livré lui-même pour elle. Il la sanctifie, il la purifie par le lavage d'eau, par la parole. Il la nourrit, il la chérit. Il va se la présenter tantôt à lui-même, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Si je cite ces quelques passages, mes amis, c'est simplement que nous soyons bien conscients du rappel de l'amour de Jésus pour chacun de nous. Et j'aime à penser que chacun s'est arrêté en face de celui qui lui-même, dit l'apôtre Pierre, a porté en son corps sur le croix, sur la croix, nos péchés. Y aura-t-il quelqu'un qui soit étranger à cet amour, qui n'ait pas pu chanter dans la sincérité et la droiture de son cœur, Jésus de ton amour vient remplir notre âme. L'amour de Jésus. Voyons déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, quelques passages où il est question de cette flamme qui brûle dans les cœurs. Au Psaume 45, nous lisons les deux premiers versets. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole, je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Ma langue est le style d'un écrivain habile. Tu es plus beau que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours. Ce psaume est des fils de Corée. Ils ont été conduits, il y a beaucoup de siècles déjà, à nous donner ces passages remarquables, où il est question d'une flamme qui brûle dans le cœur. Puissions-nous dire chacun avec eux et comme eux que notre cœur bouillonne d'une bonne parole. Qui étaient les fils de Corée? C'étaient les fils de quelqu'un qui avait une position particulière dans le peuple de Dieu. Un homme considéré, mais un homme qui un jour a osé s'élever contre Moïse, qui était porte-parole de Dieu, s'élever contre Dieu lui-même. Et Dieu est intervenu en jugement terrible. Nous avons cela dans le chapitre 16 du livre des Nombres. Toutefois, dans le chapitre 26 de ce même livre des Nombres, à la fin d'un alinéa, sauf erreur au verset 11, il y a une expression à considérer. Il est écrit toutefois, les fils de Corée ne moururent pas. Comme si Dieu nous rappelait ce soir que nous aussi nous méritons son juste jugement comme pécheurs perdus loin de lui, mais que nous sommes dégraciés, munis d'une lettre de grâce comme le chantons quelquefois, parce que, ayant reçu dans nos cœurs celui qui a porté, je le répète, lui-même en son corps sur la croix, nos péchés. Et alors ces fils de Corée sont conduits à nous donner un tel passage, ce cœur qui bouillonne d'une bonne parole. Oh mes amis, si le cœur des croyants bouillonnait, que seraient nos réunions de culte, que seraient les réunions d'assemblée, quel qu'en soit le caractère, ne serions-nous pas pressés de répondre à la sainte convocation du Seigneur quand il nous dit, comme nous l'avons en Ésaïe 26, verset 20, « Viens, mon peuple, viens, entre dans tes chambres, ferme tes portes sur toi, cache-toi pour un petit moment. » Chers amis, saluons comme une grâce, comme un privilège particulier le fait d'être là ce soir, ayant répondu à cette sainte convocation, expression que nous n'inventons pas, qui est contenue, vous le savez bien, à plusieurs reprises dans le livre du Lévitique et ailleurs. Un cœur qui bouillonne. C'est ce qui manque beaucoup parmi nous, mes amis. Nous nous sommes habitués au cours des années à beaucoup de grâces, à beaucoup de privilèges, des frères qui nous ont précédés dans le chemin, se sont penchés sur la parole, nous ont laissé des souvenirs, des écrits. Nous sommes des enfants gardés, permettez cette expression. Nous sommes habitués à une musique très douce, mais nous manquons de ce bouillonnement pour celui qui est allé jusqu'à la mort pour chacun de nous. Celui qui a dû s'écrier sous la colère de Dieu, Eli lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que ce cri a retenti dans tous nos cœurs, chers amis? Risquons dans nos familles, ayant été élevés par des parents croyants, nous risquons une foi d'éducation, peut-être même une foi de sentiment, peut-être même une foi intellectuelle, alors qu'il faut cette foi de conviction, conviction profonde. Jésus est mon sauveur. J'ai eu ce contact avec lui qui a porté mes péchés en son corps sur la croix. Puissions-nous, je le répète, connaître, réaliser à la gloire du Seigneur, à la gloire de notre Dieu, cette flamme dans le cœur, ce bouillonnement. Et ce premier verset devrait être médité longtemps, bien sûr, puisque il y a une composition et la langue et le style d'un écrivain habile. Comme si le Seigneur nous disait ce soir, mais quand vous paraissez devant moi pour la réunion de culte, mais nos frères disaient souvent, venez donc avec une composition qui comprend un alinéa pour chaque jour de la semaine. Vous vous êtes arrêté devant le Sauveur crucifié pour vous. Vous vous êtes arrêté devant le tombeau vide. Il y a une flamme qui brûle dans vos cœurs. Vous avez préparé aussi cette corbeille avec ses premiers fruits. Vous avez une composition à faire valoir devant moi. Et puis l'écrivain habile, on a vu bien sûr ce qu'est l'esprit qui nous conduit. Et ce 27e n'est-il point remarquable, mes amis? En pensant à la réunion de culte déjà, n'avons-nous pas là dans ce 27e du psaume 45 les éléments mêmes qui nous est accordé de rappeler quand nous entrons dans le sanctuaire dimanche après dimanche? Tu es plus beau que les fils des hommes. Tout ce qui a trait aux gloires de sa personne, à sa majesté, à sa grandeur, à sa beauté, ses attributs éternels, ses attributs glorieux. Et une seconde chose, la grâce est répandue sur tes lèvres, son humanité. Que rappelons-nous ensemble, frères et sœurs, chaque dimanche, si ce n'est les gloires de cette personne, mais aussi ce qu'a été ce suprême abaissement avant qu'il soit élevé dans la gloire. Un premier passage, donc, qui souligne cette flamme dans le cœur. J'en lis un deuxième dans le psaume 71 et au verset 23. Mes lèvres et mon âme que tu as achetées exulteront quand je chanterai tes louanges. Vous est-il arrivé de nous arrêter sur ce passage? Vous est-il arrivé de le méditer pour nous-mêmes? Ce psaume est remarquable parce qu'il est introduit déjà par ce premier verset. En toi, Éternel, j'ai mis ma confiance, que je ne sois jamais confus. Et le psalmiste peut dire que l'Éternel est sa confiance dès sa jeunesse. Il peut dire aussi, dans le cours de ce psaume, qu'il est enseigné dès sa jeunesse. Ce que beaucoup ici peuvent dire avec reconnaissance et peut-être tous. Mais nous arrivons à ce verset 23. Et il y en a comme une pierre de touche, mes amis. Arrêtons-nous. Mes lèvres et mon âme que tu as achetées exulteront quand je chanterai tes louanges. Jésus, ton amour vient remplir notre âme et fait-la brûler de ta flamme. Est-ce que le psalmiste ne nous dit pas dans ce verset que sa bouche est simplement l'écho de ce qui se passe dans son cœur? Remarquons l'expression. Mes lèvres et mon âme que tu as rachetée exulteront quand je chanterai tes louanges. Et l'exultation, mes amis, ce n'est pas une louange qui monte d'une façon relative, d'une façon accidentelle, passagère. Pensons à ce passage. Dans notre vie de tous les jours déjà. Pensons que le Seigneur veut, désire que notre bouche soit l'écho de ce qui se passe dans nos cœurs, de cette flamme qui doit y brûler. Je passe au psaume 84 et aux deux premiers versets. Toujours dans cette pensée du cœur qui est touché, c'est encore des vices de corée. Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées. Mon âme désire elle-même et le languit après les parvis de l'Éternel, Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. Le regard des fils de Corée est tourné vers le lieu de rencontre entre l'Éternel et son peuple. J'en fais bien sûr une application présente. Vous savez bien que les psaumes souvent nous portent sur un plan prophétique. Mais il y a là aussi toute une méditation. Mais ce que j'ai à cœur à la suite du cantique indiqué, c'est cette flamme qui brûle. Ces fils de Corée qui avaient vu la terre s'entrouvrir sous le jugement de Dieu, qui avaient réalisé qu'on ne se moque pas de Dieu, touchés par la grâce. Et dans ce même psaume, ils sont conduits à dire que l'Éternel donnera la grâce et la gloire. Ces fils de Corée ont le regard tourné, je le répète, vers ce lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. De quel côté se porte notre regard, mes amis? Dans ce monde de Pâques, dans ce monde d'incertitude, dans ce monde où les ravages du péché se font chaque jour plus étendus, dans ce monde de violence, combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées. Nous avons arrivé dans le lieu où nous sommes attendus, où nous sommes aimés, où des places ont été préparées au prix que vous savez. Et Dieu veuille que nous soyons réjouis à cette pensée et que nous attendions le Seigneur de la bonne façon. On parle beaucoup de son retour dans nos familles, dans l'Assemblée, Dieu veuille qu'on en parle beaucoup. On parle quelquefois moins de la façon d'attendre. Alors qu'il est écrit pourtant en Matthieu 25 que sortez à sa rencontre, et qu'il est écrit en Marc 13 veillez, et en Luc 19 trafiquez, et en Jean 14 croyez. Au moment où le Seigneur parle de la maison du Père, où il va préparer les places, il fait un appel au cœur. Croyez. Sortez en Matthieu 25, montrez par votre marche que vous me connaissez, que vous m'attendez. Veillez, vous êtes des sentinelles, avec le devoir d'avertir le croyant que le matin vient, mais l'incroyant que la nuit vient. Une nuit terrible. Veillez et trafiquez dans Luc 19, verset 13. Je vous ai donné des talents, des mines, vous jouissez d'une bonne intelligence, d'une instruction dans vos pays, d'un enseignement remarquable. Alors, faites valoir ce que je vous ai donné, chers amis, pensons à cela et réjouissons-nous d'atteindre le but. Bientôt, bientôt, c'est le mot de la foi. Combien sont aimables tes demeures? Et avez-vous remarqué le verset 2 de ce psaume? Nous l'avons médité ici il y a quelques années, je veux bien. Mais c'est dans le cadre du sujet introduit par ce beau cantique. Avez-vous remarqué ce verset 2 ? Mon âme désire et même le languit après les parvis de l'Éternel. Oh, les passages où il est question du désir. Quelle méditation profitable, précieuse pour le cœur du Seigneur et pour nos cœurs. C'est et qui, en Jean 12, désirent voir Jésus. Ils sont conduits à lui par deux disciples. Et que va leur dire Jésus? Oh, il va leur dire qu'il est ce grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, mais qui porte beaucoup de fruits. Est-ce qu'il y a un désir dans nos cœurs de voir Jésus? Dans Ésaïe 26, déjà cité tout à l'heure, et au verset 8, vous savez bien qu'il y a là un de ces passages souvent cités, même à la réunion de culte, notre désir et après ton nom et ton souvenir. Jeunes amis, qui peut-être est de rester à l'écart en face des signes qui, semaine après semaine, rappellent ce qui s'est passé à Golgotha pour vous, puissiez-vous dire, sans tarder, parce que le Seigneur vient, que votre désir est après son nom et après son souvenir. Il est mort pour vous. Il est ressuscité pour votre justification. Il intercède pour vous. Il vous porte sur son cœur devant Dieu toujours. Il nous porte tous, je m'empresse de le souligner, bien sûr. Mais notre désir est après ton nom et ton souvenir. Saluons comme une grâce particulière le fait de pouvoir appeler dimanche après dimanche ce qui s'est passé à Golgotha. Nous rappelions aussi ces jours que l'ennemi nous vise d'une façon particulière. Pourquoi? Parce que dimanche après dimanche, nous rappelons qu'il est vaincu. Ne soyons pas étonnés de la haine de l'ennemi pour les sœurs, pour les frères qui rappellent sa défaite. Depuis ce passage, mon âme désire aimer et le languir après les parvis de l'Éternel. Si nous connaissions cette longueur dans les familles, combien nous serions portés vers le moment où le Seigneur nous rassemble autour de lui en attendant la maison du Père. Dans le psaume 145, il y a aussi un verset que j'aimerais toucher au passage, toujours dans le cadre de ce sujet si important. Il faudrait bien sûr lire et méditer de ce psaume où il est question de la louange universelle dans les derniers psaumes. Mais le verset 7, remarquons-le, ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté et chanteront hautement ta justice. Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté. Et pour que ce verbe trouve sa signification profonde dans nos vies, il faut que brûle dans nos cœurs une flamme pour le Seigneur, en regard de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, en regard de cet amour éternel que nous allons contempler dans sa personne bientôt. Ils feront jaillir. Je le répète, jamais dans l'Écriture, la louange n'est soulignée d'une façon relative. C'est un cœur qui bouillonne, c'est une bouche qui est l'écho de ce qui se passe dans le cœur. C'est une fontaine qui jaillit. Oh, que ces passages ce que nous chantons alors le cantique soit sanctifié de tout notre cœur avec reconnaissance et adoration. Pour nous, tu connus la douleur suprême avant de nous chanter, le tourment suprême, l'humiliation suprême, la colère de ce Dieu qui avait dit celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel j'ai trouvé mon plaisir. Pourrions-nous ne pas aimer? Voudrions-nous ne pas suivre et servir un tel sauveur et qui est notre Seigneur, c'est à qui nous le comprenons bien, tous les droits sur nos cœurs. J'aurais aimé toucher le cas de Daniel dans le premier chapitre de son livre. Nous n'en avons pas le temps matériel, mais il y avait chez lui cette flamme qui brûlait pour son Dieu. Et vous savez bien que les premiers chapitres de Daniel montrent ce qu'a été cette flamme, cet engagement de cœur pour son Dieu en face de circonstances adverses. Alors que captif dans un pays éloigné, on lui demandait des choses qui étaient bien loin de correspondre à ce que Dieu attend de ses bien-aimés. Cette résolution, je le répète, cet engagement, cette consécration, nous avons besoin de cela. Et en pensant au cœur qui brûle, je dirai un mot encore de Luc 24 en terminant. Il y a là aussi des cœurs qui brûlent. Il est question donc de ces deux disciples qui ont entendu au verset 27 une réunion tenue par le Seigneur. Il y a là aussi une méditation particulière. Un seul verset nous dit ce qu'a été une réunion tenue par le Seigneur à deux disciples qui s'éloignaient du lieu où ils auraient dû être avec les autres disciples. Remarquons ce verset 27 tout d'abord. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Quelle réunion que celle-là! Dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Ne soyez pas étonnés, chers amis, d'entendre les frères qui ont à cœur la lecture et la méditation de la parole s'arrêter sur tant de passages, sur tous les passages qui nous parlent de lui, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il prend dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Il les leur explique. Il va répondre à leur invitation. Ces deux disciples réalisent que ce compagnon de route n'est pas n'importe quel compagnon de route. Et ils lui disent, verset 29, ils le forcèrent, disant, demeure avec nous, car le soir approche, le jour a baissé. Il entra pour rester avec eux. Remarque du petit mot avec. Et il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit. L'ayant rompu, il le leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts. Et après cela, verset 32e, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin, lorsqu'il nous ouvrait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem, trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux. Disons, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin et comment il s'était fait connaître à eux dans la fraction du pain. Et comme il disait ces choses, il se trouva lui-même là, au milieu d'eux, et leur dit « Paix vous soit ». Verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. » Chers amis, que de fois, au cours des années, les Écritures ont été ouvertes devant nous. Que de fois la parole de Dieu a été dans nos mains. Des milliers de fois, pour les sœurs, pour les frères de notre âge, qui ont répondu à la convocation du Seigneur, que de fois. Est-ce que notre cœur brûle parce que les Écritures ont été ouvertes? Parce que le Seigneur nous a parlé, parce qu'il a appelé notre regard à s'arrêter sur lui, qui a été élevé de la terre sur la croix, mais qui est élevé maintenant à la droite de la majesté. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous ouvrait les Écritures, il nous est arrivé ici même ou ailleurs dans la drogue, dans l'Ardèche, de rappeler cette chose ouverte de ce chapitre 24. C'est un chapitre qui est une perle particulière, puisque c'est là que la nouvelle création est introduite. La première chose ouverte, c'est le sépulcre. La résurrection du Seigneur a inauguré la nouvelle création. Le sépulcre est ouvert. Les yeux de ces deux disciples sont ouverts. Nous venons de le lire. Les Écritures sont ouvertes. Nous venons de le lire encore. Au verset 45, le Seigneur ouvre l'intelligence pour discerner ce qu'est sa personne, la gloire de cette personne. Au verset 50, les mains du Seigneur sont ouvertes. Il est écrit, il les mena dehors jusqu'à Béthanie, et levant ses mains en haut, il les bénit. Ce soir encore, ses mains sont ouvertes pour bénir. Frères et sœurs, chers amis, est-ce que nous réalisons, comme le dit Esdras à plusieurs reprises dans son livre, que la main de notre Dieu est en bien sur ceux qui s'attendent à lui? Est-ce que nous réalisons avec Esdras aussi les deux fois où il dit la bonne main de notre Dieu? Il faut lire le livre d'Esdras. Dans ces chapitres 6, 7, 8, il est beaucoup question de la main de notre Dieu, de sa bonne main. C'est important cela. Les mains du Seigneur ouvertes pour bénir ses mains qui portent une gravure particulière à cause de toi, à cause de moi. La sixième chose vraie, c'est le ciel. Le Seigneur est élevé dans la gloire. Il n'est jamais écrit qu'il a été enlevé. Il est élevé dans la gloire. Il n'est jamais écrit qu'il est remonté. Il est toujours écrit, il est monté. Tu es monté auprès d'un roi, ton fils. Genèse 49. Des expressions qui touchent à la personne du Seigneur sont, nous le comprenons, d'une élévation particulière. Septième chose ouverte, vous y avez pensé. C'est la bouche des disciples. Remarquons donc le dernier verset. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Les bouches sont ouvertes parce que les cœurs brûlent, parce que l'amour de Jésus y est entré. Il y a produit des effets. Et chez ces deux disciples, qui ont les yeux ouverts et qui maintenant réalisent les choses comme nous devons les réaliser nous-mêmes. Avez-vous remarqué ce qui est écrit? Il est dit seulement à l'heure même. Seulement à l'heure même, verset 33, ils s'en retournèrent à Jérusalem, trouvèrent assemblée les onze. Et puis, il est dit au verset 35 qu'ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin, comment ils s'étaient fait connaître à eux. Ils se lèvent, il y a là l'énergie, bien sûr, de la foi dans cette expression, et puis ils racontent. Ils ne peuvent pas rester membres passifs devant les autres frères et sœurs. Ils racontent, ils ont vu le Seigneur, ils l'ont entendu. Puissions-nous, mes amis, être des témoins pour celui qui est allé jusqu'à la mort à cause de nous et pour chacun de nous. Celui qui seul pouvait satisfaire aux exigences de la justice et de la sainteté divine. Nous le chantons quelquefois avant cet hymne 14e du vin du ciel, t'offrir en sacrifice, et par toi seul, Dieu fut glorifié, ta sainteté, sa justice, sa croix, Jésus a tout magnifié. Quelle strophe de cantique nous avons là, chers amis. Il racontait, et le Seigneur parlait au milieu d'eux. Et il leur dit, paix pour soi. Je termine sur ces deux expressions. Au milieu d'eux. Nous sommes chez lui ce soir. Nous sommes autour de lui. Nous sommes avec lui. Et ce soir encore, par l'oreille de la foi, par le cœur, nous entendons ces trois mots, paix-vous soit, en franchissant le seuil de nos logos, mes amis. Ah, si ces trois mots étaient bien entendus. Mais quelle atmosphère dans les réunions de l'Assemblée. Et ces autres mots du Seigneur que nous avons vus, voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même.